Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces chants magnifiques. Je ne connaissais pas le dernier chant qui est très beau, très très beau. Pour présenter ce message, cette prédication au Seigneur, habituellement je prie, mais j'aimerais qu'on reprenne ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Bienvenue Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le chanter tous ensemble? Et ce sera l'introduction du message qui est en rapport justement avec le thème de ce chant. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Amen. Bienvenue Saint-Esprit, remplis-nous de ta puissance pour pouvoir annoncer ta parole, pour ouvrir notre intelligence, que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vie et la vérité. Merci pour ta parole qui est la lumière sur notre sentier. Merci Jésus. Amen. Tout vient de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons dire, tout vient de Dieu. Si moi je peux prêcher la parole, c'est par l'Esprit de Dieu. Personnellement, je ne pourrais pas le faire. Je ne serais pas capable de le faire. Et parfois même, si nous pouvons saisir certaines choses dans la parole de Dieu, c'est parce que l'Esprit nous permet de le saisir. Et je crois que ce sont des choses que nous devons nous rappeler souvent. Et justement, ce soir, le message, il est en rapport avec ça. Le message ce soir concerne l'action du Saint-Esprit sur deux personnages de l'Ancien Testament qui s'appellent ou qui s'appelaient Betsaleel et Oholiab. Donc on va voir qui sont ces deux personnages. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 35, versets 30 à 35. Exode 35, versets 30 à 35. Donc je lis dans la version Second 1910. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Amen. J'ai été interpellé par ce passage, j'étais dans ma lecture quotidienne, et j'ai été interpellé par ce passage. J'avais lu le livre de la Genèse, et ensuite le livre de l'Exode, et quand j'ai lu ce passage, mon attention vraiment a été attirée par quelques mots. Ces mots-là, c'était « il l'a rempli de l'Esprit de Dieu », en parlant donc de Betsaleel. L'Éternel l'avait rempli de l'Esprit de Dieu. Ça m'a interpellé, cette expression m'a interpellé. J'ai compris plus tard pourquoi, mais quand j'ai lu ce passage, ça m'a interpellé. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le Saint-Esprit n'est pas né le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'est pas apparu le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est présent dans la parole de Dieu dès le commencement. Puisque dès le livre de la Genèse, au chapitre 1, c'est au verset 2, je crois, il est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, ou qu'il se mouvait plutôt au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était présent dès la création. Et il se manifeste à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, comme ici, puisque Dieu remplit Betsaleel et Oholiab de son Saint-Esprit. Et cet exemple-là, l'exemple de ces deux hommes, est très riche d'enseignements. On est dans un contexte où le peuple est sorti d'Égypte, le peuple est dans le désert, Et l'Éternel appelle Moïse sur le mont Sinaï. Et il va lui révéler un certain nombre de choses. Le texte que nous avons lu à l'introduction n'est pas la parole de Dieu, la parole que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Le texte que nous avons lu, c'est ce que Moïse dit au peuple une fois qu'il est redescendu du mont Sinaï. Mais sur le mont Sinaï, l'Éternel va révéler plusieurs choses à Moïse. Il va d'abord lui révéler les 10 commandements, donc c'est la loi morale de Dieu. Il va aussi lui révéler son caractère. Dieu va se révéler à Moïse dans son caractère. Il lui dira: l'Éternel, je suis l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc il va se révéler dans son caractère, il va se révéler dans l'alliance qu'il établit avec Israël, puisqu'il dira: vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Il va se révéler aussi, il va révéler à Moïse tout ce qui va concerner les lois civiles et les lois religieuses, notamment tout ce qui va concerner les lois sociales, tout ce qui va régir les sacrifices, les fêtes religieuses. Donc tout ça va être révélé à Moïse sur le mont Sinaï, et il va lui révéler encore une chose, il va lui révéler le tabernacle. Le tabernacle va être révélé par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Le tabernacle, c'est quoi? C'est le lieu que Dieu a voulu pour résider au milieu de son peuple. Le peuple était dans le désert, mais Dieu a toujours été au milieu de son peuple. Il a toujours été présent. Il n'a jamais abandonné le peuple dans le désert. Il était une colonne de nuée le jour pour le guider. Il était une colonne de feu la nuit pour le guider. Et il était dans le tabernacle. Il a résidé dans le tabernacle. Et donc, Dieu va donner à Moïse des instructions précises à propos du tabernacle. Que devait être le tabernacle? Comment il devait être préparé, conçu, etc. Et donc, il va désigner Betsaléel. Puisque Moïse dit lui-même, Dieu a choisi Betsaléel. Il l'a choisi. Et donc Betsaléel va exécuter, à partir des consignes que Moïse va lui donner, Betsaléel, accompagné d'Oholiab, va exécuter la réalisation du tabernacle. Et donc, on peut lire dans Exode, chapitre 31, versets 1 à 6, ce que Dieu a vraiment dit à Moïse sur le mont Sinaï à propos de Betsaléel et du tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Ouri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » Il l'a rempli de son esprit. « De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïssamak, de la tribu de Dan. » Betsaléel a donc été rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est un événement. Et je disais tout à l'heure que ce passage m'a interpellé, et j'ai compris plus tard pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous lisez le livre de la Genèse et ensuite le livre de l'Exode, à part le début, la création, où il est fait mention de l'Esprit de Dieu, mais à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas dans un homme. Betsaléel, c'est le premier homme où explicitement dans la Bible, l'Esprit de Dieu, qui est rempli de l'Esprit de Dieu. L'Éternel a parlé à Moïse, l'Éternel a parlé à Abraham, l'Éternel a parlé à beaucoup d'hommes, mais Betsaléel est le premier homme explicitement dans la Bible rempli de l'Esprit. Et donc le fait de voir l'Esprit de Dieu apparaître à ce moment-là et remplir cet homme, j'ai compris après coup que c'était ça qui m'avait interpellé. Un inconnu, Betsaléel, c'est un inconnu. Jusqu'avant ce moment-là, la Bible ne parle jamais de Betsaléel. C'est la première fois qu'elle en parle pour dire que Dieu l'a choisi et que Dieu le remplit de son esprit. Et je crois que Dieu nous parle à travers de cet exemple, qu'il y a des choses à retenir. Et je vous propose de partager ensemble 5 enseignements que nous pouvons aussi nous approprier pour nos vies, pour nos expériences personnelles. Le premier enseignement, c'est que c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui choisit. Dieu dit: sache que j'ai choisi Betsaléel. Il l'a choisi. Et Dieu ne choisit pas au hasard. Dieu choisit, il désigne, il appelle personnellement, car il veut utiliser une personne, car il veut associer une personne à son projet. Et alors, il appelle cette personne-là. Et Dieu a un principe, c'est que il choisit des hommes et des femmes, oui, mais tout commence à partir de son appel. Les choses ne commencent pas quand l'homme ou la femme décide que ça commence. Quand l'homme ou la femme veut bien, quand l'homme et la femme pensent que c'est le moment d'eux, quand ils ont un souhait, quand ils prennent la décision, les choses commencent quand Dieu choisit, quand Dieu appelle. Pourquoi appelle-t-il un homme ou une femme à le servir? Pourquoi Dieu appelle-t-il un homme ou une femme à le servir? Il pourrait faire sans nous. Il pourrait très bien se passer de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu est omnipotent. Il est tout puissant. Il n'a pas besoin de nous. En vrai, il n'a pas besoin de nous. Dans Exode, au chapitre 25, verset 8, Dieu dit, c'est l'Éternel qui parle, il dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Il a parlé. Voilà quelle est sa parole. « Ils me feront un sanctuaire. » Dieu a décidé que les hommes lui feraient un sanctuaire. Il aurait pu le faire lui, il aurait pu le susciter lui-même. Dans le désert, il a fait apparaître la manne, il a fait apparaître l'écaille, il aurait très bien pu faire apparaître un tabernacle, mais il a décidé qu'il associerait les hommes. Que ce serait son peuple qui construirait sa demeure, la demeure où il résiderait au milieu d'eux. Voilà pourquoi il appelle Betsaleel et Oholiab, afin qu'il construise sa première demeure au milieu d'Israël, selon sa volonté, parce qu'il va donner des instructions très précises, et pour cela il va les remplir de son esprit. Quand Dieu appelle un homme ou une femme, c'est pour un projet, pour une mission précise. Et si Dieu nous sauve, si Dieu sauve les hommes, si Dieu sauve les femmes, ce n'est pas pour nous laisser dans un coin, ce n'est pas pour notre salut personnel, mais c'est parce que nous entrons dans son plan, parce qu'il a des projets pour nous. Et ça ne concerne pas quelques personnes, ça concerne tous ses enfants. Nous sommes toutes et tous appelés à servir Dieu dans son plan, pour sa cause, pour son projet de sauver l'humanité. Selon la volonté de Dieu, le tabernacle exigeait un certain niveau de connaissance, un certain niveau de compétence, de précision et surtout de fidélité, parce qu'il avait donné beaucoup d'instructions très précises. Et pour faire ce que Dieu demandait réellement, il fallait être très fidèle à sa parole. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous ne sommes pas capables de faire les choses sans l'Esprit de Dieu. Et c'est particulièrement vrai dans l'exemple du tabernacle. Quand vous lisez le niveau de détail que Dieu a donné à Moïse pour la confection de... Déjà, arriver à s'en rappeler, arriver à se rappeler de tout ce qu'a dit Dieu, c'est un exploit. Je pense que Dieu avait doté Moïse d'une grande mémoire, d'une grande capacité de mémoire. Parce que quand vous relisez l'Exode et que vous voyez toutes les instructions que Dieu a données à Moïse pendant un jeûne de 40 jours et 40 nuits, pour qu'il arrive à s'en souvenir avec tant de précision et à le transmettre et que les autres le comprennent avec le même niveau de précision et le réalise aussi parfaitement, c'est manifestement l'Esprit de Dieu qui agit. Amen. Il a dit, il l'a appelé et tout de suite après il a dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et là, le message de Dieu est clair. L'œuvre de Dieu ne peut pas être accomplie uniquement à partir de nos capacités humaines. Toute œuvre que Dieu nous demande est une œuvre spirituelle, même si elle est accomplie parfois par nos mains, mais ça reste une œuvre spirituelle qui sert la cause de Dieu. Et pour cela, elle demande l'assistance du Saint-Esprit. Et donc Dieu va choisir deux hommes. Betsaleel, de la tribu de Juda, et Oholiab, de la tribu de Dan. Il choisit deux hommes, de deux tribus différentes. Ça, c'est un détail qui m'a interpellé aussi. Donc Betsaleel est issu de la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'est peut-être la tribu la plus importante des douze, puisque c'est de cette tribu que va être issu David, c'est de cette tribu que va être issu Jésus lui-même. Donc c'est une tribu, parmi les douze, c'est une tribu particulière qui a une place vraiment de choix. Et puis il choisit Oholiab de la tribu de Dan. La tribu de Dan, à l'inverse, ce n'est pas une tribu très mise en avant, c'est plutôt une tribu qui est en retrait parmi les douze. C'est notamment la tribu qui va accueillir un veau d'or, une fois qu'ils seront installés dans le pays d'Israël, cette tribu-là va accueillir un veau d'or, c'est un peuple qui va se tourner vers l'idolâtrie. C'est de cette tribu qu'est issu, par exemple, Samson, c'est peut-être le personnage le plus célèbre dans la Bible, issu de la tribu de Dan, c'est Samson. C'était pas un exemple pour ce qui est de faire la volonté de Dieu. Donc vous voyez, c'est une tribu qui est souvent dans les choses les moins, comment dire, valorisantes, à l'inverse de la tribu de Juda, qui est très importante. Et pour moi, ça veut dire que Dieu utilise tout le monde. Même si Dieu ne fait exception de personne, Dieu veut tous nous inclure dans son plan, quelle que soit notre origine, quel que soit notre bagage scolaire, universitaire, nos qualités, nos compétences. Dieu veut tous nous équiper de son Saint-Esprit. Parce que ce ne sont pas les compétences qu'on acquiert dans ce monde qui font qu'on sera un bon ou un moins bon serviteur devant Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous qualifie toutes et tous et qui va nous donner à toutes et tous un niveau d'excellence pour servir Dieu et pour présenter à Dieu un service qui lui soit agréable. Amen. Donc ça veut dire que pour qui que ce soit ici, même si on t'a dit que tu n'étais pas bon dans telle tâche, que tu n'avais pas suffisamment de potentiel, que tu n'avais pas suffisamment de compétences. Devant Dieu, tout cela, ça ne vaut rien. Devant Dieu, Dieu te regarde comme son fils, comme sa fille. Et quand Dieu te regarde comme son fils, comme sa fille, il te voit comme un serviteur potentiel. Juste, il faut que tu acceptes de le servir, que tu reçoives son Saint-Esprit. Et alors, tu vas faire des choses pour Dieu. Alors, tu vas accomplir des œuvres pour Dieu. Dieu, ici, n'appelle non pas un, mais deux hommes. Et là aussi, ça m'a... Parce qu'il aurait pu choisir un seul homme. Moïse aurait pu lui-même donner les consignes et dire aux hommes, faites-le. Mais il a choisi deux hommes en particulier pour guider la construction du temple. Là aussi, je crois qu'il y a quelque chose d'important. C'est que le Saint-Esprit nous remplit. Dieu nous remplit de son Saint-Esprit pour que nous réalisions des missions, que nous réalisions des services pour lui. Mais Dieu veut que nous travaillions ensemble. Vous ne verrez jamais un homme seul accomplir seul toute la volonté de Dieu dans le plan de Dieu. Toute la Bible nous montre l'association de personnes. Ici, c'est Moïse avec Aaron. Moïse n'était pas tout seul pour aller à la cour de Pharaon, pour combattre Pharaon et permettre que le peuple sorte d'Égypte. Moïse n'était pas seul, Moïse était avec Aaron. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Paul et Timothée, Élie et Élisée. Jésus avait choisi 70 disciples et les a envoyés deux par deux. Il les a envoyés deux par deux, il ne les a pas envoyés seuls. Chacun dans leur coin, il les a envoyés deux par deux. Parce que quand on est en équipe, ou quand on est en binôme, on est plus fort que quand on est tout seul. Déjà, on s'encourage, on se soutient, on prie les uns pour les autres. S'il y en a un qui chute, l'autre, il le relève. C'est ça, travailler en équipe. Et il y a une autre chose aussi. C'est que je vois que dans la façon comment Dieu a demandé, a donné les instructions et a voulu que soit construit le tabernacle, il a donné les instructions à Moïse. Et Moïse a dû donner ses instructions à Betsaleël. Et Betsaleël a eu un assistant qui est Oliab. Je crois que Dieu ne voulait pas que qui que ce soit s'accapare la gloire de la construction du tabernacle. Parce que le fait pour Betsaleël d'avoir un assistant et d'avoir des ouvriers, ça voulait dire que ce n'est pas lui seul qui a fait le tabernacle. Il ne pouvait pas se ramener toute la gloire pour lui. La gloire revient à Dieu. C'est Dieu qui a permis tout cela. C'est Dieu qui a donné les instructions à Moïse, qui a donné l'intelligence et la mémoire à Moïse pour qu'il donne les instructions à Betsaleël et à Oliab qui ont eux-mêmes agi pour que les ouvriers construisent le tabernacle conformément à ce que Dieu demandait. Éphésiens chapitre 2, versets 21-22 nous dit, Éphésiens 2, versets 21-22, « En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Je crois que la construction du tabernacle, la façon dont Dieu orchestre les choses et la façon dont il envoie son Saint-Esprit pour remplir les constructeurs du tabernacle, tout cela préfigure aussi l'Église dans laquelle tous les croyants que nous sommes participent à la construction du temple spirituel. C'est notre mission. Tous, autant que nous sommes enfants de Dieu, qui avons donné notre cœur à Jésus, nous participons à la construction du temple spirituel. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Le deuxième enseignement dans ce texte, c'est que Dieu remplit de son esprit. Voilà pourquoi je voulais reprendre ce chant. Bienvenue Saint-Esprit, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ta présence. Ici, le Saint-Esprit, Dieu a rempli Betsaleël de son esprit, l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Tout commence par l'action de Dieu qui remplit Betsaleël de son esprit. Pour toutes sortes d'ouvrages, il a un objectif. Il n'a pas rempli pour le remplir. Il n'a pas rempli de son Saint-Esprit pour lui faire plaisir ou pour qu'il en profite lui-même. Il l'a rempli dans un but bien précis, pour toutes sortes d'ouvrages. Ça veut dire que l'action de l'Esprit précède l'efficacité dans le service. Pour qu'il y ait une efficacité dans le service pour Dieu, avant ça, il faut la plénitude de l'Esprit. Et c'est un principe de Dieu, c'est que notre service pour lui doit découler de la plénitude de l'Esprit. Si tu sers Dieu sans être rempli de l'Esprit, tu crois que tu sers Dieu, mais tu ne sers pas Dieu. Nous ne servons pas Dieu à partir de nos capacités humaines, à partir de nos compétences humaines, de notre savoir humain. Nous servons Dieu parce que nous sommes remplis de son Saint-Esprit. Et c'est lui qui agit. C'est Dieu qui agit pour nous remplir de son esprit. On retrouve ce principe dans le livre des Actes, au chapitre 1 et au verset 8. Lorsque Jésus s'adresse à ses disciples, il leur dit « Mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus a envoyé ses disciples, mais d'abord, il les a remplis de son esprit. D'abord, il devait être rempli de l'esprit. D'abord, il devait recevoir la puissance de l'esprit. Et toi aussi, il veut t'envoyer. Mais d'abord, tu dois recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Tu n'iras nulle part, tu ne feras rien au nom de Dieu tant que tu n'es pas rempli de l'esprit. Ce n'est pas possible. Tu feras des choses, mais tu feras des choses humaines qui auront un résultat humain, qui auront une durée humaine. Mais tu ne feras pas des choses qui sont d'une nature divine. Pour faire des choses d'une nature divine, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit équipe les croyants. Même dans cette église, le Saint-Esprit équipe les croyants pour l'œuvre de Dieu, par la prédication de sa parole, pour le service, pour la direction de l'église, pour l'édification de l'église, pour l'enseignement dans l'église. C'est le Saint-Esprit qui donne les capacités nécessaires pour l'œuvre de Dieu. Je me suis intéressé au nom de Betsaléel. Betsaléel signifie, en hébreu, à l'ombre de Dieu ou sous la protection de Dieu. Et donc, son nom est prophétique, ce nom de Betsaléel est prophétique. Il annonce la mission que Dieu va lui confier. Il va être sous la protection de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, à l'ombre de Dieu. Il est à l'ombre de Dieu, il est en communion avec Dieu, il est dépendant de Dieu, puisque c'est Dieu qui le qualifie, c'est Dieu qui lui donne tout ce dont il a besoin pour réaliser le tabernacle. Ça m'a rappelé, dans le livre des psaumes, au psaume 91 et au verset 1, ce verset qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Le serviteur de Dieu travaille dans l'ombre de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est l'ombre de Dieu. Celui qui est mis en avant, c'est Dieu. Le serviteur, c'est l'ombre de Dieu. Et le nom de Betsaléel nous rappelle cela. C'est que toute œuvre que nous faisons au nom de Dieu doit se faire sous la direction de Dieu. Betsaléel n'a pas agi selon son imagination. Il a agi selon les instructions qu'il a reçues de Moïse. Et il a pu les réaliser par les capacités que le Saint-Esprit lui avait données. Le nom de Betsaléel illustre aussi l'attitude du serviteur de Dieu, qui doit toujours être dans l'humilité, parce que la gloire revient à Dieu seul. Quand on est serviteur de Dieu, il faut être capable d'accepter que nous-mêmes, nous n'avons rien mérité, que nous-mêmes, nous ne pouvons rien sans lui, et que donc la gloire lui revient. Quoi que nous fassions dans l'Église, la gloire revient à Dieu seul. Betsaléel, je le disais tout à l'heure, avant cette histoire de tabernacle, dans la Bible, il n'est pas cité, jamais, c'est un inconnu. Et après le tabernacle, c'est encore un inconnu. Il est cité seulement pendant la phase de construction, de préparation, de réalisation du tabernacle. Il avait cette fonction-là et il a été fidèle à Dieu en toutes choses dans cette tâche que Dieu lui avait donnée. Et puis enfin, le nom de Betsaléel illustre un principe spirituel pour nous tous, c'est que le serviteur de Dieu est attaché à son maître. Mon ombre, si on ne va pas la voir ici, il n'y a pas assez de lumière, mais si on voit mon ombre, elle est attachée à moi. Si je lève le bras, elle lève le bras. Elle me suit partout où je vais. Elle n'existe pas sans moi. Si on éteint la lumière, il n'y a plus d'ombre. Je crois que c'est important, cette image est importante pour bien comprendre ce que le Saint-Esprit fait en nous. Il fait de nous l'ombre de Dieu. L'ombre est attachée à celui qui la projette. Si celui qui la projette disparaît, l'ombre disparaît aussi. Et servir Dieu, c'est ça, c'est demeurer dans son ombre, rester son ombre, vivre dans sa présence, dépendre de lui, recevoir sa sagesse. Ça veut dire que pour donner à Dieu, offrir à Dieu un service authentique, il faut une relation authentique avec lui. Il faut une communion avec Dieu. Sans communion avec Dieu, nous ne pouvons pas le servir comme lui veut que nous le servions. Amen. Le troisième enseignement, c'est que l'Esprit de Dieu est accompagné de qualités morales et de qualités intellectuelles. On pourrait penser que l'Esprit de Dieu œuvre dans une dimension spirituelle pour tout ce qui va toucher vraiment au spirituel. Mais on voit bien que dans cet exemple-là, l'influence de l'Esprit de Dieu ne s'arrête pas, loin de là, ne s'arrête pas au domaine spirituel, mais elle va bien au-delà. Elle est accompagnée de qualité morale, de qualité intellectuelle. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir. Sagesse, intelligence et savoir. Des qualités morales et des qualités intellectuelles. Donc la plénitude de l'Esprit, c'est pas que entrer dans une dimension spirituelle. C'est aussi, selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, parce qu'il n'a pas les mêmes projets pour chacun de nous, mais c'est aussi, selon la volonté de Dieu, des capacités fonctionnelles. Dieu va donner des capacités fonctionnelles pour accomplir une tâche particulière, une œuvre particulière qu'il attend de nous. Ici, on voit qu'avec l'esprit arrive la sagesse, l'intelligence et le savoir. Et d'autres choses aussi, on va voir après, qu'il n'y a pas que ces qualités-là. Il y a d'autres qualités qui vont arriver aussi. Et ça montre que l'esprit agit dans tout l'être humain, pas seulement dans la dimension spirituelle, mais dans bien d'autres dimensions, que ce soit dans les dimensions sociales, dans les dimensions intellectuelles, dans les dimensions cognitives. L'esprit fait ce qu'il veut. L'esprit fait ce qu'il veut de nous. Il nous fait atteindre le niveau que lui veut que nous atteignions. À partir du moment où nous sommes fidèles, parce que je crois que ça c'est une qualité importante chez Betsaléel, il a été fidèle en toutes choses, il a été humble et il a été élevé à un niveau d'excellence dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il faisait. Donc l'Esprit de Dieu éclaire notre esprit, mais il éclaire aussi notre être entier, dans toutes ses dimensions, corps, âme et esprit. L'influence de l'Esprit de Dieu ne s'arrête pas au domaine spirituel, elle touche à l'âme, elle touche au corps, et elle touche à l'esprit. Donc, il avait promis qu'il leur donnerait la sagesse, l'intelligence et le savoir. Est-ce que Dieu leur a effectivement donné la sagesse ? Oui. Et donc, la suite de l'histoire nous présente effectivement qu'ils ont été remplis de sagesse. Pourquoi je dis ça ? Ils ont fait preuve d'une grande intégrité dans la gestion de toutes les ressources qu'ils avaient reçues pour construire le tabernacle. On va lire dans Exode au chapitre 36, versets 4 et 5. Ce qui se passe quand le peuple avait amené trop de ressources. Vous savez que pour construire le tabernacle, il fallait des tapis, des tissus, des métaux, des pierres précieuses. Donc, on avait demandé au peuple d'amener. Alors, regardons ce qui se passe. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Ils ont été honnêtes. Quand ils avaient trop, ils ont dit stop. Nous recevons trop d'or, nous recevons trop d'argent. Qui ici dirait j'ai trop d'or, j'ai trop d'argent ? On dirait amen, amen. Eux, ils ont arrêté. Ils ont dit Moïse, arrête-les. Ils amènent trop. On a tout ce qu'il nous faut, ça suffit. Donc ils ont été vraiment sages par rapport à ça. Mais ils avaient quand même beaucoup de choses. Sachez que j'ai fait le calcul. Si on convertit, parce que ce n'est pas les mêmes mesures dans la Bible que celles que nous utilisons aujourd'hui, il n'y a pas de kilos, il n'y a pas de tonnes, mais si on convertit, sachez qu'ils ont utilisé quasiment une tonne d'or. Je ne sais pas si vous imaginez, 1000 kilos d'or, donc pour construire le tabernacle, une tonne d'or, 3 tonnes et demie d'argent et 2 tonnes et demie d'airain, c'est-à-dire du bronze. Donc, j'ai regardé ce que ça représente en 2026 en valeur. Selon le cours actuel des métaux, sachez que ça représente plus de 70 millions d'euros. Toute proportion gardée, c'était également à ce moment-là, à cette époque-là, une somme d'une très grande valeur. Il y a beaucoup d'hommes, si vous leur donnez 70 millions d'euros pour construire un bâtiment, il y a beaucoup d'hommes sur cette terre, ils vont prendre les 70 millions d'euros et vous ne les reverrez jamais. Ils ont été remplis d'une grande sagesse. Quand ils en avaient trop, ils l'ont dit. Et ce qu'ils avaient, ils l'ont utilisé. Parfaitement utilisé, puisque la parole nous dit qu'ils ont accompli le tabernacle, ils ont réalisé le tabernacle exactement comme Dieu l'avait demandé. Quelle sagesse ! Que Dieu nous donne à tous cette sagesse d'utiliser les ressources que nous avons dans l'Église conformément à ce qu'il attend de nous, honnêtement, avec une bonne gestion. Est-ce que Dieu leur a effectivement donné l'intelligence ? Oui, car non seulement ils ont été capables de faire des inventions, puisque le texte dit qu'ils ont fait des inventions, mais en plus, Exode 39-42 nous dit « Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Tous les ordres. Ils ont tout fait exactement. Et l'intelligence s'est manifestée dans la capacité à comprendre ce que Moïse disait et à faire exactement ce que Dieu voulait. Quelle intelligence ! Et que Dieu nous donne aussi, nous, cette intelligence pour faire exactement sa volonté. Est-ce que Dieu leur a effectivement donné le savoir ? Oui. Puisque le texte dit que Dieu leur a accordé le don d'enseigner. Donc si Dieu leur a accordé le don d'enseigner, c'est que préalablement, il leur avait accordé le savoir. Si on n'a pas de savoir, on n'a rien à enseigner. Il fallait un grand savoir pour réaliser le tabernacle. C'est vraiment, quand on lit le texte, c'est d'un niveau de... C'est incroyable tout ce qui est demandé. Il fallait gérer les ressources, la fameuse tonne d'or, les 2,5 tonnes de bronze, etc. Il fallait gérer toutes ces ressources. Il y avait aussi les pierres précieuses. Il fallait diriger les ouvriers, ça ne devait pas être simple. Il fallait coordonner les chantiers, il fallait planifier, il fallait surveiller, il fallait puis exécuter aussi, fondre l'or, tailler les pierres précieuses, travailler le bois, faire la couture, broder. Enfin, c'est une somme, on va dire, de compétences qui nécessitaient vraiment beaucoup de savoir. Exode 36, 1 dit « Betsaleel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. » Quel savoir! Que Dieu nous donne à nous aussi un tel savoir pour réaliser les œuvres qu'il attend de nous et pour enseigner aussi notre prochain. Le quatrième enseignement, c'est que l'Esprit de Dieu qualifie aussi à travers des dons pratiques, à travers des dons artistiques, à travers des compétences techniques. Je disais qu'il est illimité, l'Esprit de Dieu est illimité, il fait ce qu'il veut. On a vu qu'il agissait dans un domaine spirituel, il peut agir dans un domaine spirituel, il peut y associer des compétences intellectuelles, des compétences sociales, ces choses-là. Et il agit aussi dans la pratique, l'artistique, le manuel, le technique. On voit que Betsaleel a reçu la capacité de concevoir et la capacité de travailler toutes sortes de choses, des métaux, des tissus, des broderies, des pierres précieuses. Il fait tout cela. Il est rempli de l'Esprit de Dieu et on voit qu'il reçoit donc des dons très variés. Très variés. Entre diriger les hommes, diriger les chantiers et tailler les pierres précieuses, c'est vraiment des compétences très différentes. Et pourtant, il est excellent dans tous les domaines, qu'ils soient pratiques, manuels, artistiques, même spirituels, par sa fidélité à Dieu. Et là, il y a une chose qui m'a interpellé. Ça m'a interpellé. Je me suis dit, il s'agit du premier homme dans la Bible qui est rempli de l'Esprit de Dieu, mais ce n'est ni un prophète, ni un sacrificateur, ni un homme de Dieu, ou ce genre de personne. C'est un homme comme les autres. On va dire un artisan, un homme manuel. Pas un homme qui était mis en avant dans le peuple, pas quelqu'un qui était réputé ou reconnu parmi le peuple, mais un homme simple dans le peuple. Et je crois que ça veut dire aussi que Dieu veut nous toucher. Dieu veut nous remplir de son Saint-Esprit, mais il veut aussi nous sanctifier à partir des talents qu'il nous a donnés, à partir du travail qu'il va nous donner à faire pour lui, parce qu'il agit dans toutes les sphères possibles, y compris, on l'a dit, dans les talents artistiques, techniques, dans les talents créatifs. Et ici, par exemple, dans notre église, ça veut dire travailler le son, la technique du son. Ça veut dire les instruments, ça veut dire le chant, mais ça veut dire aussi la préparation des repas, ça veut dire aussi le ménage, ça veut dire aussi l'entretien du local, ça veut dire aussi l'instruction biblique auprès des enfants. C'est tout cela. C'est tout cela que Dieu fait. Et si nous exerçons tous ces talents dans l'église, c'est sous la direction du Saint-Esprit. Dans la parabole des talents, quand le maître revient, il demande à chacun ce qu'il a fait des talents qu'il avait donnés. Il avait donné un talent à l'un, deux talents à l'autre, cinq talents encore à l'autre. Et il leur demande, qu'est-ce que vous avez fait de ces talents? Et c'est pareil pour nous. Il nous demandera ce que nous avons fait des talents. Dieu donne des talents à tout le monde. Peut-être qu'il donne un, peut-être qu'il donne deux, peut-être qu'il donne cinq. Mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'il donne des talents. Pour l'un, il va demander une telle chose. Il avait demandé à Betsaleel de construire le tabernacle. Mais parmi l'équipe qui construit le tabernacle, il y en avait un. Lui, ce qu'il devait faire, c'était broder un bout de tissu. Betsaleel, lui, il avait reçu la tâche de construire le tabernacle, de superviser tout cela. Dieu a besoin de tout le monde. Et devant Dieu, il n'y a pas de petit service ou de grand service. Devant Dieu, il n'y a que de l'obéissance. Devant Dieu, il n'y a que de la fidélité. Il n'y a pas un service aux yeux de Dieu. Il n'y a pas un service plus grand que l'autre. Je crois vraiment cela. Je crois que Dieu ne préfère pas l'un à l'autre. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne préfère pas celui qui prêche à celui qui fait le ménage. Par contre, Dieu va préférer celui qui fait bien par rapport à celui qui fait mal. Dieu va préférer celui qui fait avec la fidélité que celui qui fait avec l'hypocrisie. Dieu fonctionne comme cela. Et je crois que les œuvres pratiques ou les œuvres artistiques dans l'Église, elles sont inspirées de l'Esprit de Dieu. Je crois que tout ce qui se fait dans l'Église est inspiré de l'Esprit de Dieu. Et devant Dieu, je crois qu'elles ne sont pas inférieures à celles qui sont réalisées, par exemple, dans le domaine spirituel. Je ne crois pas que faire le ménage dans l'Église, ce sera moins important que prier ou intercéder ou toute activité spirituelle. Ça, je ne le crois pas. Par contre, je crois qu'on est tous appelés à servir Dieu. Si tu marches avec Dieu, si tu marches avec Jésus depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans et que tu ne sers pas, je pense qu'il y a un problème. Et quel que soit le talent que Dieu t'a donné, considère avant toute chose la grâce qu'il t'accorde. C'est une grâce de pouvoir servir Dieu. C'est un honneur d'être rempli de son Saint-Esprit. Vraiment. Et je termine avec un cinquième enseignement. C'est que l'Esprit de Dieu fait de nous des enseignants. Il fait de nous des enseignants. On a vu qu'il a accordé à Betsalel et à Oliab le don d'enseigner. La capacité d'enseigner. Ça veut dire que l'action de l'Esprit ne s'arrête pas à notre personne. Il ne nous équipe pas de son Saint-Esprit pour nous-mêmes, pour faire quelque chose qui nous sert nous-mêmes. Mais vraiment, le message de Dieu, c'est « Sers ton prochain, aime ton prochain. Tout ce que tu fais à un plus petit que toi, tu le fais pas, tu le fais pour lui peut-être, mais d'abord tu le fais pour moi. » Ça, c'est le message de Dieu. Et quand nous servons Dieu, nous servons aussi notre prochain. Et je crois que Dieu ne veut pas faire de nous des espèces de réservoirs de Saint-Esprit, des réservoirs de stockage du Saint-Esprit. La volonté de Dieu, c'est de faire de nous des conducteurs, de faire de nous des transmetteurs, qu'à partir du moment où nous remplit de son esprit pour réaliser une tâche pour lui, c'est que ce que nous faisons le sert lui, mais va aussi servir mon frère, va aussi servir ma sœur, va aussi servir l'Église. Ça, je crois que c'est vraiment la volonté de Dieu. Et il y a aussi un principe spirituel important à connaître ici, c'est qu'il y a une différence entre une œuvre conduite par l'esprit et une œuvre charnelle. C'est que l'œuvre qui est conduite par l'esprit, elle produit du fruit. Au-delà de ma personne, au-delà du service que je fais moi, à partir du moment où je sers Dieu, rempli de l'Esprit, il va y avoir des bénédictions qui vont arriver autour de moi. Il va y avoir des bénédictions qui vont arriver pour mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit est très puissant. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas, ne se cantonne pas à ce qu'il fait dans la vie d'une personne. Mais quand le Saint-Esprit remplit une personne, cette personne-là, elle rayonne. Et cette personne-là, elle transmet des choses autour d'elle. Elle transmet des bénédictions autour d'elle. La vision de Dieu, c'est une vision de multiplication. La vision de Jésus pour son Église, c'est une vision d'expansion. Ce n'est pas une vision de retenue. Ce n'est pas restons tout petits, c'est aller dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas rester ici et attendez. Non, c'est aller et faites de toutes les nations des disciples. C'est comme ça que l'œuvre conduite par l'Esprit produit de la multiplication. C'est le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Jésus n'a pas gardé les 5 pains et les 2 poissons pour lui. Avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri 5000 hommes. Amen. Donc nous avons un Dieu qui a cette pensée-là, de nous remplir de l'Esprit, oui, mais pour enseigner. Et quand nous enseignons autour de nous, quel que soit le domaine dans lequel nous enseignons, nous avons tous du savoir ou des choses à transmettre dans nos domaines de compétences, mais quand nous le faisons, nous honorons ce que Jésus a demandé. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et une fois qu'il a dit ça, il a ajouté, et enseignez-les. Il n'a pas dit, allez et faites de toutes les nations des disciples et rentrez chez vous. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Excusez-moi pour la voix. Je termine en conclusion en disant que c'est une pensée que j'avais aussi. En tant que chrétiens, nous participons tous à la construction de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Toutes et tous. Et c'est une grande chose, n'est-ce pas? C'est une très grande chose que nous faisons. Mais si je traverse le hall et que je vois une personne qui fait le ménage, est-ce que je vais penser qu'elle fait une aussi grande chose que participer à la construction de l'Église de Jésus-Christ? En vrai, non. Je suis honnête. C'est pas la première pensée qui me vient. Et je crois que peut-être pour vous, c'est pareil. Si je vois cette personne-là qui passe le balai, je vais pas avoir la même pensée. C'est pas cette pensée-là qui vient dans ma tête. Et le travail que Dieu a demandé à Betsalel, c'était de construire le tabernacle, le lieu physique où il allait demeurer au milieu de son peuple. Et c'est ce que Betsalel a fait. Mais quand Betsalel cousait les tapis, parce qu'il a fait ça, il faisait une petite chose. Et le tabernacle, c'est une œuvre immense dans la Bible. Dans le contexte du peuple de Dieu dans le désert, la construction du tabernacle, c'est une œuvre exceptionnelle, conduite par l'Esprit. Mais pour que cette œuvre exceptionnelle voie le jour, il fallait qu'il y ait quelqu'un avec son fil, son aiguille, qui brode les petits tissus. C'est pour ça que cette mission confiée à Betsalel, elle est accomplie par l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'elle préfigure l'œuvre que l'Esprit réalise dans la construction du temple spirituel aujourd'hui, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. Et je voudrais relire ce verset qu'on a lu tout à l'heure, Éphésiens 2, 21-22. « En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alléluia. C'est pourquoi cet exemple de Betsalel, je le trouve très parlant. Parce que Dieu agit dans tellement de dimensions. Son Saint-Esprit agit de tellement de façons différentes dans nos vies, dans les petites choses comme dans les grandes. Et la parole dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, il le sera aussi dans les grandes. Il faut passer par les petites choses pour faire des grandes. Il faut passer par les petits services pour faire des grands services. Mais Dieu voit dans le secret et Dieu voit dans le cœur. L'Esprit de Dieu n'agit pas seulement dans les prophéties. L'Esprit de Dieu n'agit pas seulement dans les miracles. Il n'agit pas seulement dans les choses spectaculaires, mais il se manifeste dans toutes les dimensions de la vie humaine et dans tous les services pour lesquels il nous appelle. Quel que soit votre service pour Dieu, rendez-lui grâce, parce que c'est vraiment un honneur de servir Dieu. Et si nous servons Dieu, c'est parce que nous sommes remplis de son Saint-Esprit. Et c'est aussi un honneur immense d'être rempli de son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait chaud au cœur, Seigneur. Oui, nous voulons encore recevoir ton Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui nous transforme littéralement, qui transforme nos vies dans toutes les dimensions. Nous croyons, Seigneur, que par ta puissance, par ton Saint-Esprit, tu peux transformer tous les compartiments de nos vies, toutes les dimensions de nos vies. Tu peux agir dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre travail, dans notre famille, dans notre voisinage, dans tous nos besoins, Seigneur, nous te les remettons parce que nous croyons que la puissance est dans ton Saint-Esprit, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, Seigneur, qui n'a pas encore reçu le baptême de ton Saint-Esprit. Descends sur lui, descends sur elle, remplis-le de ta présence, qualifie-le pour ton service. Fais de nous des serviteurs qui te soient agréables, Seigneur. Donne-nous un cœur pour te servir, Seigneur. Merci de le faire par ton Saint-Esprit, par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies. À toi soit la gloire. Amen.